je te remercie pour ta présence. Merci parce que tu es un Dieu saint et merveilleux. Je veux vraiment glorifier ton nom, te remercier pour la puissance de ta gloire. Merci parce que tu as promis dans ta parole de déverser ta gloire au milieu des saints. Merci pour l'héritage des enfants de Dieu. Tu es un Dieu saint et vraiment je veux te donner toute la gloire ce matin. Merci parce que tu vas nous provoquer au changement. Tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux. Et je veux vraiment te sanctifier. Tu es le Dieu trois fois saint. Merci pour ta sainteté. Les fleuves de ta sainteté qui coulent dans ce lieu ce matin. Tu es extraordinairement saint, étonnamment saint, sans péché. Tu n'es pas esclave de quiconque, mais tu es parfaitement saint. Un Dieu saint et libérateur. Et merci parce que ta sainteté au milieu de nous va couler sur nous et nous transformer en ton image, de gloire en gloire. C'est vraiment une joie pour moi que d'être au milieu de vous. Je veux bénir encore vos pasteurs qui me font cette grâce et ce privilège de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Et vous pouvez vous asseoir. Et je remercie déjà ma chère pianiste pour l'onction qui repose sur vous. Je vais juste présenter en une minute ce livre. Comme vous voyez, il est gros. Donc, vaut mieux le lire que de l'avoir sur la tête. Et c'est un livre de pensées du jour. Donc, il y en a 365. Et plus que des pensées, ce sont vraiment des exhortations, des enseignements. Et chaque jour, vous avez soit une page ou deux pages. Et j'ai écrit 200 de ces exhortations. Et avec moi ont participé plusieurs pasteurs de la francophonie, comme le pasteur Olivier Derain, le pasteur Mamadou Karambéry, Mohamed Sanogo et d'autres, l'évangéliste Renard Bunke. Et je crois vraiment que vous serez édifiés. Ce livre n'est pas le fruit d'une idée humaine que j'aurais pu avoir, mais c'est vraiment le fruit d'une parole que Dieu m'a donnée. Et il y a vraiment une grâce particulière qui repose sur ce livre. J'ai déjà commencé, on avait mis quelques extraits, juste 15 jours sur le site. Et il y a une femme qui m'a appelé d'Italie, qui m'a dit qu'elle avait été... En le lisant, complètement bouleversé par la puissance du Saint-Esprit. J'ai d'autres personnes aussi qui m'ont dit, juste en lisant les quelques pages, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et je crois vraiment, réellement, qu'il y a une grande faveur sur ce livre. Donc, il sera disponible à la fin. Au niveau du prix de librairie habituelle, c'est $40. Et là, pendant les fêtes, c'est $25. Et pour ceux qui souhaitent en prendre deux, vous aurez en plus un agenda chrétien pour toute l'année. Donc là, vous avez l'agenda... Le livre des pensées, vous êtes sûr de ne pas vous tromper de jour. Je ne vais pas trop faire la pub des livres, mais plus qu'un livre, c'est vraiment que le Seigneur vous fortifie et vous touche puissamment. Et certaines personnes, parfois, dépensent beaucoup d'argent à Noël pour s'acheter un parfum à $80 ou à $100 ou je ne sais quoi, des talons aiguilles ou des boubous, je ne sais pas. Mais là, pour $25, vous avez vraiment, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, quelque chose qui est éternel, qui va vraiment vous construire. Donc je vous encourage fortement à le prendre. Il y a aussi des prix, si on en prend plusieurs, vous aurez tout ça là-bas. Ce matin, c'est, comme je l'ai dit, une grâce pour moi de vous partager la parole de Dieu. Et il est évident que Dieu a quelque chose à vous dire. Dieu ne déplace jamais un de ses serviteurs pour rien. Mais il a toujours quelque chose à dire à son peuple. Et la Bible déclare dans Lévitique, au chapitre 20 et au verset 26. Lévitique, chapitre 20, verset 26. La Bible déclare, « Vous serez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Dieu de toute éternité avait un objectif très clair, c'est que son peuple soit un peuple très spécial, mis à part. Et il est évident qu'à la chute, Il y a eu deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Mais dans le cœur de Dieu, il y avait un profond désir de créer une race sans égale. Une race différente. Une race qui sortirait de lui. Mais Dieu, ne pouvant enfanter dans la chair, enfante spirituellement. Et à partir du moment où nous avons accepté Jésus, nous sommes sortis du cœur de Dieu. Et par la même occasion, le jour de notre nouvelle naissance, nous sommes devenus saints. La chute a rendu les gens pécheurs, marchant dans le péché tous les jours de leur vie. Mais Dieu nous a rendus saints. Dans tout l'Ancien Testament, les gens cherchaient la sainteté. Ils cherchaient à obéir à la loi. Mais personne ne réussissait pleinement à obéir à cette loi difficile. Et pendant l'Ancien Testament, il y a des gens comme vous et moi qui ont marché tous les jours de leur vie en cherchant l'inaccessible, en cherchant une nature qui n'était pas possible de vivre en tant qu'être humain. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu glorieux, celui que j'aime par-dessus tout, j'aime tellement Jésus. Il est tellement glorieux, ce Jésus. Et il est tellement simple aussi. Un Jésus si glorieux s'est fait si simple. C'est le Jésus que j'aime, c'est le Jésus que nous servons. Un Jésus simple. Il a choisi de s'humilier pour nous. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est venu établir un royaume. Mais non pas un royaume fait de préceptes et de lois à nouveau, mais un royaume de sainteté. Un royaume où la présence de Dieu se manifesterait partout. Partout où une personne marcherait à l'intérieur de ce royaume, la sainteté de Dieu coulerait sur lui. Il a construit un royaume éternel, un royaume qui n'a pas de fin, qui ne finira jamais. Un royaume de sainteté. Et quand nous sommes nés de nouveau, ce n'était pas une petite prière que nous avons faite, mais réellement, dans notre esprit. Nous avons été complètement déconnectés du royaume des ténèbres. Tout péché en nous, tout esprit méchant, toute malédiction a été anéanti par la puissance de sainteté de Dieu. Plus que la puissance de Dieu et que la force du Seigneur, sa sainteté va au-delà. Et quand tu es né de nouveau, quand je suis né de nouveau, la sainteté de Dieu est venue tabernacler en nous. Elle est venue prendre toute la place dans ton esprit. Voilà pourquoi certaines personnes se sont réveillées après avoir accepté Jésus. Elles ne pouvaient plus toucher à certaines choses. Parce que l'esprit de sainteté tabernaclait en eux. Il habitait en eux par sa puissance. Un esprit de sainteté. Un esprit glorieux. Pour qu'on voit la différence réellement entre celui qui sert Dieu et celui qui marche dans le péché. L'esprit de sainteté est venu habiter dans ton esprit. Un esprit supérieur. Pour une vie supérieure. Pour une vie qui marche au-delà des circonstances de ce monde de péché. Il est venu habiter dans ton esprit. Pour te rendre complètement différent. Un homme saint. Une femme sainte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait parler aux saints. Parce que réellement leur nature était une nature de sainteté. Et Dieu nous a donné une nature de sainteté. Que tu pèches ou pas, si tu es né de nouveau, ta nature est la sainteté. C'était le désir de Dieu de toute éternité que ses enfants lui ressemblent, que ses enfants soient comme lui. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il a changé ta nature. Tu vis dans la sainteté dans ton esprit. Mais la sainteté qui est en toi doit se manifester dans ta vie. Vous serez saints car je suis saint. Et l'homme qui marche conscient de sa nature n'est pas un homme qui combat le péché. C'est un homme qui marche dans la sainteté. Et la sainteté en lui fait exploser le péché. Lorsque tu marches avec la précieuse personne du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas marcher dans le péché. Le péché sent mauvais dans ta vie. Quand le péché essaie de s'approcher de toi, tu sens à l'intérieur de toi un malaise. Le malaise que te donne ton esprit régénéré, né de nouveau. Tout est devenu parfait dans ton esprit. Les gens cherchent la perfection. Les gens cherchent la richesse. Les gens cherchent la gloire. Les gens cherchent à être aimés des autres. Mais ils ne comprennent pas que s'ils sont nés de nouveau, la perfection habite en eux. La richesse habite en eux. La sainteté habite en eux. Et cette sainteté, c'est une personne dont on va parler. Et on va aller dans Genèse au chapitre 25. Et c'est une parole de Dieu pour vous. J'aime l'inspiration du Saint-Esprit. Et Dieu veut vous inspirer dans votre vie quotidienne. Parce que Dieu est un Dieu d'inspiration. Il aime inspirer les gens. Voilà pourquoi il faut se mettre en position d'être inspiré, de recevoir sa divine inspiration. Son inspiration, c'est extraordinaire, c'est complètement glorieux. Parce que son inspiration te fait faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Et dans son inspiration, il y a les fruits de l'inspiration, surnaturels. Genèse 25, au verset 22. On va lire à partir du verset 21. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit « Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Cette femme est enceinte de deux royaumes. Et lorsqu'elle reçoit cette parole, elle n'est pas à même d'imaginer les conséquences de cette parole. Elle ne peut pas imaginer ses petits et ses petits et ses petits-enfants. Et nous, aujourd'hui, et nous sommes enceints du Saint-Esprit. Dans notre esprit, le Saint-Esprit s'est rendu comme un bébé, pur et parfait, doux, avec une douceur extrême, te laissant toujours la possibilité de choisir la vie ou de choisir le mal, de choisir la mort ou de choisir le bien. Il y a dans ton esprit un royaume. Et de ton esprit peut réellement sortir un royaume. Au terme de sa grossesse, au verset 24, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un mouton de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ces garçons grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait volontiers sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, et Rebecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Il dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment. En fait, il jura. Et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. À cause d'un vulgaire plat de lentilles, cet homme a méprisé l'appel de Dieu sur sa vie. Il n'allait pas mourir, il était juste fatigué. Un homme qui est prêt à mourir, s'il mange, il ne va pas se relever tout de suite. Mais comme un homme qui va vers une femme prostituée ou en adultère, il est allé faire ce qu'il avait à faire et il est reparti. Cet homme a méprisé le don que Dieu avait pour lui. Il a méprisé l'appel de Dieu qui était sur sa vie. Il a méprisé l'appel du Saint-Esprit sur sa vie. Contrairement à Jacob qui désirait marcher avec Dieu. Jacob voulait la bénédiction. Jacob voulait ne pas être séparé de Dieu. Jacob n'était pas celui qui était, entre guillemets, prédestiné à recevoir l'héritage directement. Mais pourtant, à cause de sa révérence envers l'appel de Dieu, cet homme a reçu un héritage qu'il n'aurait jamais dû recevoir. Il est dit dans Hébreux 12, au verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, d'une faveur imméritée, un cadeau de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets, qui pour un plat, vendit son droit d'aînesse. Pour un plat de lentilles, Ésaü a craché sur le Saint-Esprit. » En fait, il est dit ici littéralement, il a dit à Jacob, « Fais-moi bouffer ton plat de lentilles. » Il n'a pas dit « J'aimerais déguster ton plat. » Il a dit « J'aimerais bouffer ton plat. » Et cet homme n'avait aucune distinction, aucune reconnaissance de la révérence. Ésaü était un homme qu'on pourrait appeler de bonne vie, un bon vivant, quelqu'un qui aime bien manger, qui aime les choses de cette terre, un profane. Et cet homme ne savait pas donner l'importance à la sainteté. Et beaucoup dans l'Église sont comme lui. Ils méprisent sans cesse le Saint-Esprit. Sans cesse. Ils vont vers le Saint-Esprit comme un homme irait vers une femme juste pour combler un besoin, un désir charnel. Et un mari ne peut pas aller vers sa femme s'il n'a pas une intimité en relation avec l'intimité qu'il désire avoir. Et de la même façon, on ne peut pas s'approcher de Dieu et lui demander tout un tas de choses si nous n'avons pas une intimité avec lui. Et beaucoup s'approchent tout le temps de Dieu, avec plein de demandes, constamment, comme si Dieu était un distributeur de bénédictions, comme si Dieu devait toujours donner et tendre la main. Beaucoup sont comme un homme qui va simplement vers une prostituée pour avoir ce que sa chair désire. Aucune distinction pour la révérence. Le Saint-Esprit n'est pas un objet vers lequel on va pour combler un désir, un besoin. Mais le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas un ensemble de principes. Il n'est pas une doctrine. Le Saint-Esprit n'est pas une doctrine. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas juste le Saint-Esprit. Il est une personne. Une réelle personne. Et le Saint-Esprit est attristé lorsqu'il est confronté à ce qui n'est pas saint dans nos vies. Le Saint-Esprit construit en nous un royaume. Et c'est nous-mêmes qui lui bloquons le bras ou pas. Et il y a beaucoup de gens, et je sais qu'il y en a par ici, dans vos pensées, c'est la guerre. Il y a tellement de gens qui sont oppressés dans leurs pensées, toujours les ramenant vers le bas, toujours les ramenant à l'échec, des pensées d'échec, des pensées d'incrédulité. Il y a beaucoup parmi vous, vous ne vous aimez même pas. Vous n'arrivez pas à trouver quelque chose de bon en vous. Et vous méprisez toujours ce que Dieu a fait de vous. Et autant, aussi longtemps que vous allez vous mépriser, vous ne pourrez pas laisser la place au Saint-Esprit. Vous avez besoin de reconnaître la nature que le Saint-Esprit a créée en vous. Et je prie vraiment que Dieu vous donne un esprit de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez comprendre ce qu'il veut vous dire ce matin, que vous puissiez saisir, parce que la parole déclare que la semence tombe, la même semence, sur des terrains différents. Dans certains terrains, elle porte du fruit, dans d'autres non. Écoutez la parole de Dieu. Si les gens pouvaient réaliser la présence du Saint-Esprit, si les gens pouvaient réaliser que le Saint-Esprit est vraiment une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un souffle, le Saint-Esprit n'est pas un frisson, le Saint-Esprit n'est pas un ressentiment, une sensation. Le Saint-Esprit n'est pas une voix. Le Saint-Esprit est une personne. Et sachez-le, le jour où vous avez accepté Jésus, le Saint-Esprit s'est attaché à vous. Il s'est connecté à vous. Vous ne l'avez pas vu, mais il s'est connecté à vous. Et le Saint-Esprit n'est pas une théologie. Le Saint-Esprit, personne, s'est connecté à votre esprit. Et ce n'est pas une image que Dieu nous a donnée. C'est la réalité. Et un grand travail pour nous, c'est d'être plus conscient des choses spirituelles que des choses naturelles. Mais la Bible déclare qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air, qui ramène toujours les gens à vivre dans la nature charnelle, humaine, avec leurs désirs, avec leurs passions, avec leurs choses qui passent. Aucune éternelle. Mais Dieu nous appelle à fixer nos yeux sur ce qui est réellement important. Et ce que Dieu veut vous dire ce matin, c'est de fixer vos yeux sur ce qui est réellement important, ce qui a vraiment de la valeur. Vous ne pourrez pas vivre la gloire de Dieu. Et je sais que vous avez ce désir de vivre quelque chose avec Dieu. Mais vous ne pourrez pas vivre la gloire de Dieu en méprisant le Saint-Esprit, en ne reconnaissant pas le Saint-Esprit dans votre vie. L'Église a connu le Père. L'Église a connu Jésus. Mais si peu de croyants ont connu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est souvent attristé, tellement souvent. Comme une femme qui serait dans une maison dont le mari ne ferait pas qu'un seul regard, pas une seule parole, pas un seul geste d'attention. Parfois même le mari pourrait laisser un mot alors que sa femme est juste à côté. Et tellement de chrétiens sont comme ça. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est ici, au milieu de nous. Et il est disposé à bénir. Il est disposé à guérir. Il est disposé à délivrer. Il est disposé à révéler Jésus-Christ. Parce que toujours le Saint-Esprit veut révéler Jésus. Jamais le Saint-Esprit ne se glorifie lui-même. Toujours, il glorifie la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est vraiment doux. Ça veut dire que jamais il ne viendra pour t'apparaître devant toi. Jamais il viendra comme cet âne qui s'était arrêté sur le chemin du prophète. Jamais il ne bloquera ta route. Toujours il te laissera aller. Il te laissera aller. Parce que le Saint-Esprit a une personnalité. sensible. Ce n'est pas une personnalité sensible, charnelle, comme les femmes ou les hommes peuvent connaître. Mais c'est une sensibilité par rapport à la sainteté, par rapport à la révérence. Et Dieu utilise non pas des gens qui sont parfaits, non pas des gens qui sont sans péché, mais des gens qui ont une sainte révérence de sa personne. La révérence de Dieu, c'est vraiment quelque chose que Dieu agrée, que Dieu peut accepter et que Dieu peut utiliser. La révérence de Dieu t'amènera à l'inspiration. La révérence de Dieu t'amènera à avoir une conscience claire, une conscience pure, une conscience forte. La révérence de Dieu t'amènera dans les dons spirituels. La révérence de Dieu t'amènera dans le miraculeux, le surnaturel. La prière ne fera pas forcément quelque chose pour toi si tu n'es pas révérent envers Dieu. Pour un plat de lentilles, cet homme a méprisé le Saint-Esprit. Il a méprisé l'appel de Dieu sur sa vie pour pouvoir manger. Cet homme a écouté sa chair au lieu d'écouter Dieu, au lieu d'écouter l'appel que Dieu avait dans sa vie. Et il a vraiment craché sur l'appel de Dieu sur sa vie. Il savait ce qu'il faisait. Et littéralement, il est dit qu'il a juré de refuser son droit d'aînesse. En fait, il a juré, il a dit, je jure que je refuse le plan de Dieu pour ma vie. C'est ce qu'il a fait. Parce que cet homme n'avait pas du tout conscience des réalités spirituelles. Il n'était pas du tout conscient. Il n'y avait aucune vision. Et sans vision dans ce monde, nous allons vivre comme les gens de ce monde. Exactement de la même façon. Et une vision, ce n'est pas juste pour le week-end. Ce n'est pas juste pour le dimanche. Ou pour un jour particulier. Une vision t'aide à marcher dans cette vie. Et Jacob était un visionnaire. Non, il ne voyait pas tout. Mais il savait que la bénédiction de Dieu est ce qui enrichit. Non pas financièrement seulement, mais de toutes les manières. La présence de Dieu enrichit. Et pour un plat de lentilles et pour du pain, il a tout perdu. Il est passé à côté de l'appel de Dieu sur sa vie, pour des choses complètement humaines. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 11, à propos d'un grand serviteur de Dieu, de la même nature que toi et moi, Hébreux chapitre 11 et au verset 24, c'est par la foi. Et pour avoir foi, il faut avoir une vision. Hébreux 11, 24. Que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Si dans ta vie tu marches dans le péché, j'aimerais te dire, tu ne pourras jamais voir Dieu intervenir dans ta vie. Jamais. Tes réponses, tes prières ne seront jamais répondues. Jamais. Parce que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas. Comme Jésus qui venait à ces gens, il ne put pas guérir ces gens à cause de leur incrédulité. Il regardait plus loin vers la récompense. Cet homme a préféré être maltraité en gardant sa dignité, en gardant une révérence envers Dieu, plutôt que d'avoir une jouissance éphémère. Et il y a des gens, ils osent prendre des choix qui vont les amener dans le chaos, qui vont les amener loin de Dieu. Des choix qui vont enlever la présence du Saint-Esprit dans leur vie en manifestation. Et pour un homme, pour un mari, pour une fiancée, les hommes sont prêts à rejeter l'esprit de sainteté. Pour un repas entre amis, pour une sortie particulière, pour de l'argent, les gens refusent et méprisent le Saint-Esprit. Pour quelque chose qui est charnel, éphémère, complètement éphémère, ils passent à côté de l'appel de Dieu sur leur vie. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Il y a un ennemi qui travaille et qui travaillera contre vous. Et des circonstances pénibles et difficiles. Mais dans ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs. Si nous regardons à Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a aucun perdant dans le royaume de Dieu. Il n'y a que des vainqueurs. Tu es un vainqueur et tu dois triompher. Je suis venu pour triompher, a dit Jésus, pour régner en vainqueur et pour vaincre. Et tellement de gens, pour des choses humaines, charnelles, stupides, inférieures, petites, passent à côté de Jésus. Ils méprisent la présence du Saint-Esprit en eux. Pour un peu d'argent, pour un peu de sexe, des choses nulles qui n'amènent rien, si ce n'est le chaos. Alors que la nature de Dieu habite en eux, dans leur esprit. La Bible dit « Vous serez comme des dieux ». Et ils changent leur image en un Dieu adultère, en un Dieu qui se délecte de choses pornographiques, qui se délecte de mensonges, de ragots, de murmures, de plaintes. Alors que la présence de Dieu tabernacle en eux, prend toute la place dans leur esprit. Ils ne réalisent pas la puissance qui habite en eux. Ils ne réalisent pas que Dieu lui-même, en personne, habite en eux. Dieu n'habite pas au ciel. Dieu habite dans ton esprit. Dieu habite en toi. Tu n'as pas besoin de crier pour parler à Jésus. Tu peux t'élever dans la foi, oui, tu peux glorifier son nom. Mais Jésus est tout près. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Et les gens disent, j'aimerais tellement que Jésus revienne. Mais Jésus est là en toi. Il est dans ton esprit. Il vit en toi. Et c'est dramatique de voir le nombre de gens qui ont été sauvés par Jésus-Christ, qui ont été rachetés, délivrés, guéris. Rachetés, délivrés d'esprits méchants, qui sont retournés à leur vomi, à des choses charnelles, pour un succès humain, pour toucher à des choses qui n'ont aucune importance, des choses vaines et stupides, juste pour être glorifiés par les hommes, juste pour être honorés, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Il y a un prix réel. Suivre Jésus te demandera tout. Suivre Jésus te coûtera tout ce que tu as. Suivre Jésus te demandera de faire des choix, de prendre des décisions importantes. Non, je ne marcherai pas dans le péché. Je ne choisirai pas un inconverti pour me lier avec. Je ne marcherai pas dans le mensonge. Je refuse ces choses. Il y a sur votre peuple une bénédiction. Il y a sur votre peuple un appel. Dieu vous a déplacé dans une nation qui n'est pas la vôtre, afin que vous puissiez briller. Dieu a déplacé un grand nombre, un si grand nombre d'Africains, partout sur toute la terre, pour glorifier son nom. Et voilà que lorsqu'ils arrivent dans une nation, ils perdent Jésus. Ils cherchent la richesse. Ils fuient le pays pour trouver la richesse. Ils arrivent dans le pays de richesse, ils oublient Jésus. Alors que Dieu les appelle à être des flambeaux, des lumières. Tu es accepté par Jésus-Christ. Tu n'es peut-être pas accepté par les Canadiens, par les Québécois. Tu n'es peut-être pas accepté par les gens de cette ville, mais tu es accepté par Jésus-Christ. Et quand tu suis Jésus, quand tu marches fermement attaché à Jésus, enraciné en lui, la gloire de Dieu brillera dans ton cœur, brillera en manifestation dans ta vie. La présence de Dieu se manifestera au-delà de ta vie. Dieu vous a déplacé pour que vous puissiez briller. Non pas que vous soyez écrasé, mais que vous puissiez briller et annoncer la gloire de son nom. Mais vous devez être conscient, constamment, et ne pas perdre la vision, qu'il y a un prix à payer. Oui, vous serez peut-être pauvre, vous allez peut-être marcher dans des temps difficiles, mais en Jésus-Christ, vous allez trouver la richesse. Oui, peut-être que la maladie viendra vous attaquer, Mais la maladie n'a aucun pouvoir sur nous. Vous la rejetez simplement au nom de Jésus. Ne dites pas « je ressens ceci ». Ne dites pas « j'ai cela ». Dites votre nature. Racontez les bienfaits de Dieu. Racontez dans votre maison les bienfaits de Christ. Ne racontez pas vos problèmes au travail. Ne racontez pas vos problèmes dans la vie de tous les jours. Mais racontez les bienfaits de Dieu. Oui, je veux me rappeler des bienfaits de Dieu. Comment il m'a délivré? Je n'étais rien. J'étais un pécheur, le pire. Je méprisais son nom et il m'a aimé. Il m'a pris de la boue du péché. Il m'a transformé à son image. Je n'étais rien. Il a changé mon éternité. Il m'a transformé. Il m'a fait changer de route. Il m'a fait changer de destinée. Arrêtez de marcher dans vos pensées. Arrêtez de penser petit. Parce que Dieu est grand. Dieu est puissant. Si seulement vous croyez, il y a tellement de gens qui doutent. Et il y en a qui doutent parmi vous. Vous doutez. Mais ceux qui doutent se tiennent sur le côté. Ceux qui doutent ne peuvent pas aller dans le fleuve de Dieu. Ne soyez pas de ceux qui doutent. Soyez de ceux qui croient. Autant que vous douterez, vous aurez le fruit de vos doutes. Changez juste de position. Choisissez d'accepter ce qui est vrai. Choisissez d'accepter que la parole de Dieu est vraie. Un peuple différent. Vous êtes un peuple différent. Vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme, vous êtes un esprit. Vous êtes éternel. Ne marchez pas selon les minutes et les heures et les jours qui passent. Ne dites pas, mais c'est tellement longtemps que Dieu m'a appelé, il ne s'est rien passé dans ma vie. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui marche avec les heures. Vous êtes éternel. Dieu ne marche pas avec le temps, Dieu marche avec une vision. Vous devez marcher avec une vision. Abraham, espérant contre toute espérance, il n'y avait rien pour l'aider à espérer. Mais il a continué d'espérer. Il a continué de croire celui qu'il n'avait pas vu. Noé, au milieu d'une génération perverse, personne ne se souciait de Dieu. Personne n'appelait Dieu. Personne ne cherchait Dieu. Et Noé, avec une seule parole de Dieu, une seule parole de Dieu, a obéi. Et pendant des années, il a construit une arche. Il a fait quelque chose de complètement stupide pour les hommes. Mais il avait reçu une parole de Dieu. Et la sainteté pour ce monde est vue comme une stupidité. Attendre le mariage est vu comme une stupidité. Ne pas s'enivrer est vu comme une stupidité. Mais c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Parce que Dieu se manifeste au travers de la sainteté. La sainteté. Dieu est saint. Il est saint. Mais Dieu ne peut pas se manifester dans le péché. Dieu se manifeste dans la sainteté. Il a regardé la jouissance éphémère qu'il pouvait avoir. Et Moïse a regardé vers Christ. Il ne connaissait pas Jésus directement, tel qu'on le connaît nous, avec une si grande révélation. Mais il le regardait. Il voulait voir ce Jésus dans sa vie. Et le Saint-Esprit s'est attaché à toi. Voilà pourquoi la Bible déclare « Attachez-vous fortement au bien ». Ne vous attachez pas seulement quand tout va bien. Ne vous attachez pas seulement quand les circonstances sont bonnes. Mais attachez-vous fermement au bien. Attachez-vous à ce qui est bien. Quand il y a un choix à faire et qu'il y a la facilité, mais qui n'est pas de Dieu, choisissez la difficulté. Choisissez ce qui est de Dieu. Choisissez ce qui est de votre nature. Parce que votre nature reconnaît son chemin. Votre nature sait ce qui est bien et mal. Car Dieu, dans votre esprit, a mis une conscience. Et la conscience, c'est plus que de ne pas voler et de donner de l'argent aux pauvres. Mais la conscience reconnaît son chemin. La conscience sait lorsqu'elle est au bon endroit ou pas. Il est dit dans Exode, au chapitre 32 et au verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé et ils en hériteront pour toujours. » Cet homme était un homme de vision. Il a rappelé à Dieu sa propre parole. Et combien de gens se sont fait des veaux de fonte? Combien de gens ont attribué aux hommes? Combien de gens, alors que Dieu les avait bénis, ont fait de cette bénédiction un moyen de s'éloigner de lui? Tellement de gens que Dieu a délivrés ont fait de cette restauration un moyen pour courir vers le péché. Et au lieu de rechercher Christ, ils ont recherché leur plaisir. Et l'apôtre Paul a déclaré, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Tous cherchent leur propre désir. Aucun ne se met en peine de votre situation. Ils cherchent tous leurs propres intérêts au lieu de chercher les intérêts de Jésus-Christ. Tu es un fils, une fille de Jésus-Christ. Tu dois manifester la royauté de Jésus-Christ. Le lot de ta vie, ce n'est pas ce que tu vis actuellement. Esprit de sainteté. Il faut que tu aies de la révérence pour lui. Sans révérence pour lui, tu ne pourras même pas entendre sa voix. Dieu te parlera parce qu'il t'aime et tu n'écouteras même pas, tu n'entendras même pas parce que tu n'as pas de révérence pour lui. La révérence attire la parole de Dieu. La révérence attire la direction de Dieu. Et à l'époque de l'apôtre Paul, comme aujourd'hui, beaucoup avaient été touchés par l'Évangile. Beaucoup avaient été touchés par Jésus-Christ. Beaucoup avaient été sauvés. Mais personne n'était disponible. Personne n'était disponible. Ils vaquaient tous à leurs occupations, à leur déménagement, à leur travail, à leur concours, à leur mariage. Tous, ils vaquaient à leurs occupations. Comme Ésaü vaquait à son travail et revint fatigué et fait n'importe quoi. Il y a dans l'Église des gens qui font n'importe quoi. Ils passent leur vie à faire des choses inutiles. Certains même avaient reçu des appels de Dieu pour le servir à temps plein. Et les voici en train de s'occuper d'associations caritatives, humanitaires, alors que ce n'était pas l'appel de Dieu sur leur vie. Ils sont dans des endroits auxquels Dieu ne les avait pas appelés parce qu'ils n'ont pas mis leur priorité sur Jésus-Christ. Et Israël a commencé à magnifier un autre Dieu. En fait, ils ont remplacé l'action de Dieu par leur propre pensée. Ils se sont fait une image d'un Dieu qui serait facilement approchable. Quelle que soit leur nature, ils pouvaient regarder ce Dieu et ce Dieu ne changeait pas. Alors qu'ils savaient que pour toucher le Dieu d'Israël, il fallait marcher dans la sainteté. C'était beaucoup plus difficile. Et il y a des gens comme ça, ils ont leur Bible, ils ont tout un tas de choses religieuses autour d'eux pour pallier à un manque d'intimité avec Dieu. Parce qu'ils ne sont pas intimes avec Dieu, ils rajoutent tout un tas de choses, d'artifices, pour faire croire qu'ils marchent avec Dieu. L'intimité avec Dieu Depuis combien de temps n'avez-vous pas passé un temps glorieux avec Jésus-Christ? La prière, c'est bien, mais rencontrer Dieu, c'est mieux. Jésus-Christ désire vous rencontrer. Le Saint-Esprit désire vous toucher. Le Saint-Esprit désire se faire connaître à vous. Se rendre tellement vivant dans vos vies, afin que vous puissiez être tellement conscient de sa présence, afin que vous puissiez porter du fruit. Les gens cherchent Dieu le Père, ils cherchent Jésus-Christ. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Et il y a vraiment un crime horrible que font beaucoup de gens en méprisant le Saint-Esprit. Comme s'ils avaient enfanté un bébé et qu'ils laissaient derrière eux. Sans rien faire. Sans le nourrir. Sans le regarder. Sans s'en occuper. Méprisant ainsi le Saint-Esprit. Cet homme avait une vision. Moïse avait une vision. Moïse ne voulait pas qu'on croie que Dieu était impuissant. Et Moïse, il aurait pu dire, mais oui, vas-y, extermine-les. Comme Jonas, la facilité. Mais il a choisi de continuer à marcher avec un peuple qui le faisait souffrir, afin qu'on voit resplendir la gloire de Dieu. Et il y a certains d'entre vous, vous feriez bien d'avoir cette motivation en vous et de travailler pour votre mariage, de travailler pour votre famille. Et s'il faut vous humilier, faites-le, afin qu'on ne calomnie pas le nom de Jésus-Christ. Marchez et continuez à marcher dans la sainteté. Continuez à marcher dans l'honnêteté. Continuez à marcher fortement attaché à Dieu. Fortement attaché au bien. Dieu n'utilise pas des gens parfaits, comme je l'ai dit. Il utilise des gens qui ont une sainte révérence pour lui et pour sa parole. La Bible dit dans Ézéchiel 22-26, je vais terminer, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Alors Dieu va appeler des vrais sacrificateurs. Et il dit, Ézéchiel 44, 23, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Tu dois faire la différence entre le profane dans ta vie et la sainteté. Éloigne-toi du profane. Éloigne-toi de ce qui est contre la sainteté. Et marche dans la révérence. Marche dans une sainte révérence avec Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Et maintenant, il va se manifester au milieu de nous. Il va venir parler à plusieurs personnes. Et je crois toucher plusieurs vies et guérir. Parce qu'il est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un souffle, un vent. Il est une personne. Et quand on lui laisse la place, le Saint-Esprit se manifeste. Et le Saint-Esprit va se manifester. Mais vous avez des choix à faire. Vous avez des décisions à prendre. Ne regardez pas à ce que votre chair fait, mais regardez à ce que Christ a fait pour vous. Il vous a délivré du péché. Le péché n'est pas un problème pour vous, puisque le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Il vous a délivré du péché. Et le péché, rappelez-vous, ce n'est pas seulement mentir, voler. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à l'appel de Dieu sur votre vie. Nous allons passer juste un temps avec le Saint-Esprit. et soyez révérents dans sa présence. La Bible déclare qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni bouffonneries, ni propos insensés, mais plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce. Et je veux proclamer au nom de Jésus-Christ que vous êtes un peuple qui fait la différence. Partout où vous allez, vous amenez des actions de grâce avec vous. Vous apportez avec vous l'esprit de sainteté, l'esprit de royauté. Merveilleux Saint-Esprit, tu as un esprit de sainteté et tu as un esprit vivant. Et je te demande, s'il te plaît, viens te manifester.